Nous avons eu notre couple accompagnateurs qui font partie du clair et qui sont venus plus tôt parce que elle a suivi un traitement médical très lourd et donc elle préférait venir tout de suite pendant qu'elle était en bonne forme. Donc moi je reprends à ma troisième séance les vertus du couple à l'image de l'amour du Christ. La liberté de l'engagement et sa sincérité. Et ensuite, la fidélité et l'unité. Alors, on parle de piliers du mariage. Les quatre piliers du mariage sont la liberté, la fidélité, l'unité et l'ouverture à la vie. La liberté, c'est le fait d'être conscient et de savoir ce que l'on fait pour un choix libre dans la volonté. L'intelligence saisit toute la responsabilité d'un couple et d'une promesse à la vie et à la mort, et donc est saisie cette décision par sa volonté. Donc pour qu'il y ait une pleine liberté, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle une pleine advertance, c'est-à-dire que vous êtes pleinement conscient dans l'intelligence de ce que vous faites et vous le voulez. Ensuite, la fidélité, c'est dans le choix qui est fait. La modalité de ce choix, c'est la liberté. Mais ensuite, l'objet du choix, c'est la fidélité, l'unité et l'ouverture à la vie. La fidélité, c'est le fait de ne pas se séparer et d'être l'un à côté de l'autre, dans la santé et dans la maladie, dans les épreuves et dans les joies. Et l'unité, c'est de se marier qu'avec une seule personne, c'est-à-dire que vous n'envisagez pas d'être polygame ou polyandre, c'est-à-dire que vous allez vous marier avec une autre personne en même temps, ça c'est la polygamie, simultanée ou successivement, c'est-à-dire après avoir rompu le lien. Sauf que ce lien, justement, il est indissoluble. Et ensuite, l'ouverture à la vie. L'ouverture à la vie, ça c'est le plus difficile de nos jours, puisqu'on est éduqué dans un esprit contraceptif et qu'on considère que pour sauver la planète, il faut plus d'enfants. Donc c'est sûr que... si vous voulez... Donc, d'ici 2 ans, si nous avons trop d'enfants, nous allons tous mourir étouffés par les particules fines et par le carbone. Voilà. Donc, 2 ans, c'est la période la plus courte qui nous donne. Sinon, il y a 2040 ou 2050 et on est tous morts. Vous voyez ? Donc, c'est faux. Et en ce qui concerne la confiance dans la vie, nous en traiterons justement et la religion chrétienne persiste à vous encourager à recevoir de manière responsable les enfants qui peuvent venir en acceptant qu'ils viennent et cela malgré la crainte d'une baisse de niveau de vie par rapport à l'argent, dans le sens où vous ne mourrez pas de faim, quel que soit le nombre de vos enfants. Alors ça, c'est facile à dire. En Occident, on n'ose plus. Hein. En général, on se dit, c'est pas bien qu'il y ait un système de santé, un système d'allocation familiale. Paradoxalement, on n'a pas d'enfants, on a peu d'enfants. Et là, on va dire, mais de toute façon, c'est irresponsable de dire ça à des pays très dans la misère ou dans la pauvreté. Eh bien, quand nous en parlerons, si vous voulez, c'est une confiance dans la providence divine par rapport aux pays pauvres et à leur développement et à la capacité qu'ils ont de se développer dans leurs pays qui sont très grands. Et la monogamie étant quand même aussi un facteur de prospérité par rapport à la polygamie. Mais tout cela, c'est maintenant des domaines un peu économiques et politiques. Mais je vous dirai ce qu'en dit la religion. et de manière même un peu particulière, puisque la confiance dans la providence divine pour l'humanité consiste à considérer que nous pouvons avoir des enfants sans avoir peur, et que jamais la Terre ne sera à ce point trop peuplée que ça soit absolument impossible à vivre, comme dans le film d'anticipation, dont un assez ancien qui s'appelle Soleil Vert, avec Charlton Heston, et où la population mondiale est arrivée à un tel point, n'est-ce pas, qu'on doit se manger les uns les autres. Enfin, c'est le grand rêve, si vous voulez, de ceux qui sont pour la décroissance. Mais lorsqu'on croit en la révélation biblique, il y a un élément qui est très peu cité, c'est que avant que nous atteignions une masse critique d'enfants, bien avant, largement avant, la fin des temps aura eu lieu. Vous direz, c'est pas un argument, mais c'en est un quand même. Si vous voulez, l'humanité terminera dans l'Apocalypse avant d'avoir été vraiment trop, trop, trop nombreux, qu'on puisse plus bouger. Mais sachez que, comment dire, l'espace terrestre est très important, et en France, nous sommes 67 millions. Et je vais vous choquer exprès, nous pourrions être 1 milliard, qu'on occuperait encore à peine 10% du territoire. J'ose le dire. Bon, il faudrait construire quelques villes de plus pour pas être dans des mégapoles. Et si vous voulez, lorsque nous en parlerons de manière plus spirituelle que ce que je dis de manière un peu provocatrice, c'est que il y a une véritable providence. Si Dieu ne laisse pas les gens dans la misère, dans l'adversité, si ce n'est par la guerre et la famine. Actuellement en Afrique, tous les spécialistes vous diront que les famines ont causées par la guerre, jamais par le nombre d'enfants. Jamais. Toujours, ils ont toujours eu la possibilité de manger à leur aise, et les famines sont venues uniquement de la guerre. Et vous me direz, alors pourquoi Dieu permet la guerre? Mais c'est la liberté de l'homme. Et là, on est plus justement dans la philosophie, dans la théologie. C'est pourquoi Dieu nous a créés libres, avec cette capacité que nous avons, ou d'être des êtres de bonté, de bienveillance, d'humilité, même et si nous péchons, de nous relever en reconnaissant nos torts, ou persévérer dans le mal. C'est justement le thème de la liberté. La liberté de l'homme est le propre de l'homme. Les animaux sont dans l'instinct, nous en avons déjà parlé. Nous sommes des êtres spirituels. Dieu a créé d'autres êtres spirituels que sont les anges. Ce sont des êtres qui n'ont pas de corps, qui sont de pures intelligences et de pure volonté, et qui donc, ne passant pas par les cinq sens, par un corps, pour augmenter leur science et leur connaissance de l'extérieur d'eux-mêmes, le font par, si vous voulez, illumination intellectuelle. Ils ne parlent pas avec des bouches, mais les anges se communiquent les uns avec les autres et décident du bien et du mal. Celui qui s'est opposé, qui a été jaloux de la puissance divine, s'appelle Lucifer, c'est-à-dire le porteur de lumière, ou diable, le diviseur, démon, c'est un esprit, Satan, c'est l'adversaire. C'est différents noms pour la même personne angélique. Je vous avais dit que la tradition disait qu'il avait emporté un tiers des anges. Un ange sur trois a suivi Lucifer, donc ça fait quand même, comme les anges sont des milliards de milliards, ça fait beaucoup d'esprits. Et nous ne nous rendons pas compte que nous sommes immortels par notre esprit, par notre âme, et pourtant on pose des actes libres en permanence et qui ne sont pas dans le pur instinct. Le pur instinct, si vous voulez, c'est nos nécessités corporelles. C'est l'instinct de conservation, par exemple, par rapport au feu, voyez-vous, par rapport à l'étouffement, nous avons des réflexes d'animaux. Mais nous avons une vie différente, nous avons une manière de manger différente, nous avons une manière de faire nos besoins naturels différentes par rapport aux animaux. Les animaux, eux, sont dans la faiblesse lorsqu'ils déversent leur urine ou leur matière, et ils sont craintifs. Nous aussi, parce que nous sommes des animaux, et nous sommes dans un état de faiblesse à ce moment-là, mais nous avons aussi une pudeur, qui fait aussi que nous ne mangeons pas comme les animaux. Nous apprêtons nos repas, et nous ne mangeons pas goulûment, ou rarement. C'est-à-dire que même la personne à l'éducation la plus rustre ne va pas systématiquement, si vous voulez, porter les aliments à sa bouche comme ça, vous voyez, ou s'en mettre sur le nez. Ou... Par contre, vous voyez, un lion, lorsqu'il mange une gazelle et qu'il va chercher les entrailles, vous voyez, ben, il a tout le nez rouge, enfin, c'est pas joli à voir. Hein. Ou un renard qui mange une poule, c'est un massacre. Mais ils ne sont pas dans la dentelle, c'est pas pour ça qu'ils ont été créés. Ils ont été créés pour la richesse de la création. Et s'il y a une chose à vous conseiller dans la sagesse humaine, c'est les fables d'Ésope ou de La Fontaine, pour voir ce que Dieu a voulu nous dire par les instincts des animaux. Alors même que ce sont des choses qu'on ne partage pas. Je vous avais déjà dit que le loup est un mâle alpha, comme pour le lion, et donc tous les autres mâles font abstinence tant qu'il est vivant. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, dans une meute. C'est vraiment de manière subreptive qu'un mâle peut essayer d'avoir une relation avec une femelle, parce que il n'y a que le mâle alpha qui féconde les femelles dans une meute de loups. Et donc, nous, on imagine mal ça, vous voyez, que vous ayez des tribus humaines où vous ayez un seul homme qui a tous les enfants et les autres hommes se serrent la ceinture. Ça a pu exister, ça peut exister, mais vraiment dans des tribus extrêmement dures. Et c'est tellement contre nature que ça ne marche pas. Ou il faut une extrême violence. Parce que l'homme aime. Il ne fait pas que exercer son pouvoir et sa force. Et de même que les femmes. Les femmes peuvent être dominatrices, peuvent être intrigantes, peuvent, manipulatrices. Comme des hommes peuvent être excessifs et manipulateurs. Mais voyez-vous, ce n'est pas notre nature. C'est ce qu'on appelle le péché, un excès. Notre nature, c'est de comprendre honnêtement et sincèrement, d'essayer de comprendre ce qui se passe dans toute situation et d'agir. C'est ce qu'on appelle la vertu de prudence. La vertu de prudence, c'est voir ce qu'il y a autour de nous. C'est, le fait de regarder tous les moyens qui nous entourent, tous les objets qui nous entourent, et vouloir les utiliser. Tous les moyens... Vous les rassemblez, c'est ce qu'on appelle le conseil. Vous tenez conseil en vous-même. Ou quelqu'un qui doit prendre des décisions prend conseil sur tous les moyens possibles. Ensuite, vous jugez du meilleur moyen. Et vous en prenez un seul. C'est le jugement. Et ensuite, vous passez à l'acte. Et c'est là que la volonté va choisir l'objet présenté par l'intelligence. Si vous êtes quelqu'un de prudent, vous voulez comment dire, obtenir un emploi. Vous allez contacter des entreprises, des lieux, vous allez envoyer vos CV, vous allez choisir sur les réponses, les quelques réponses que vous obtenez. Et parmi tous les entretiens que vous avez, vous allez choisir, ou parfois vous n'êtes pas en position trop de choisir, mais il y en a un qui vous plaira le plus, qui parfois va être le seul, mais vous pouvez encore le refuser, si ce n'est pas un bon moyen pour vous d'avoir le métier que vous souhaitez. Celui qui est prudent, c'est celui qui discerne, qui choisit et qui passe à l'acte. Et ça, voyez-vous, les animaux, eux, ne sont pas dans la prudence, ils sont dans l'instinct. Ils voient, ils font. Et nous exerçons notre jugement au sens large, discernement par la vertu de conseil, le jugement sur un seul des différents moyens qu'on a discernés, et le passage à l'acte. Vous avez dans vos vies rencontré plein de personnes différentes, des hommes, des femmes. Mais pour le mariage, vous avez choisi une personne. Vous allez me dire, oui, mais certains en choisissent deux ou trois. Mais ce n'est pas prudent. Parce que le mariage, c'est un investissement personnel de deux personnes. Dans la vérité du mariage, c'est l'unité. Parce que quand l'enfant vient, il aspire à avoir son papa et sa maman. Étant donné que nous sommes dans un monde marqué par la violence et le péché, et la querelle et la jalousie, Dieu a voulu, comment dire, empêcher le mal d'être dans la pérennité. La Genèse nous dit, et la Sainte Écriture nous dit, et nous souvent, assez souvent, que la maladie et le péché, enfin la maladie et la mort sont entrés dans le monde par le péché. Pas plus tard qu'hier, un jeune homme de 28 ans, marié avec un petit bébé, dans le métro, il est venu me voir, il m'a dit, est-ce que je peux vous poser une question? Parce que ma femme a une maladie génétique qui s'est déclarée, un peu une dégénérescence du système nerveux. Heureusement, c'est une maladie qui est connue et il y a un traitement, et là pour l'instant elle est stabilisée. Mais ça m'a énormément choqué. Et je voudrais savoir pourquoi Dieu a permis cette maladie pour mon épouse, qui est une femme très gentille. Pourquoi il y a la maladie dans le monde? Je lui ai dit, mais ça, c'est la limite au péché. C'est à cause des abus que nous faisons de notre liberté et du choix du mal que Dieu nous dit, eh bien, vous mourrez. Puisque vous n'êtes pas dans l'amour, puisque vous n'êtes pas dans la bonté, eh bien, vous allez mourir. Alors, vous allez me dire, mais et les innocents, alors? L'humanité, dans son ensemble, est touchée par cette faiblesse, et ceux qui restent justes et innocents, ou ceux qui ne sont même pas encore capables de discerner et de faire des choix libres, comme les bébés, sont enveloppés dans cette faiblesse et cette mortalité humaine pour que les pécheurs aient peur et soient punis, qu'ils se convertissent éventuellement par crainte et par peur, mais la crainte uniquement par peur ne sauve pas, ne donne pas l'amour. Il faut que ça soit peut-être le début, mais il faut qu'ensuite ils comprennent qu'il faut faire le bien pour le bien et non pas par peur. Et les innocents et les justes, eux, lorsqu'ils meurent, ont un destin différent de ceux qui persévèrent dans le mal. C'est la raison pour laquelle la religion sans l'enfer est difficile à comprendre si vous y réfléchissez bien. S'il n'y a pas de peine et de conséquences à la haine sans repentance, il y a quelque chose qui ne tourne pas. Ou alors, il y a deux solutions. Ou après la mort, la personne est hypnotisée par l'amour de Dieu. Et plup, et tout d'un coup, de méchante qu'elle est, librement et volontairement, elle devient gentille. C'est la théorie de l'illumination, qui est une hérésie, hein, c'est faux. Ou alors vous avez la théorie de l'anéantissement, c'est-à-dire que les témoins de Jéhovah ont cette théorie. Si une âme déteste l'amour, elle est anéantie après la mort, désintégrée. Du coup, il n'y a pas d'enfer, vous voyez, si vous me suivez. Parce que qu'est-ce que l'enfer? C'est le fait qu'une âme ou un ange choisisse la haine et que Dieu lui laisse l'existence, mais le laisse dans cette privation d'amour. La souffrance des damnés, c'est la haine. Libre et volontaire. Voilà. Alors vous allez me dire, non, c'est pas possible, Dieu est amour. Dieu est amour. Mais quelqu'un peut refuser. Moi, je connaissais un prêtre qui n'est pas comme moi un affreux intégriste, et qui est un type super gentil, cool et progressiste. Eh bien, il y a un jour, dans une discussion, il m'a dit, mais si, je prends l'existence de l'enfer, parce que sinon, il n'y aurait pas de liberté de dire non à Dieu. Chapeau. Ah, c'était, il était logique, il a dit, autant Dieu est amour, Dieu nous donne plein de chances pour nous sauver, mais autant la personne est libre de dire non à Dieu. Donc vous-même, si vous vous approchez de la religion pour faire un acte libre, comme le mariage, c'est un acte responsable. Alors pour cela, vous ne devez pas être dans l'ignorance. Si vous êtes immature, vous ne pouvez pas vous marier. Si vous ne savez pas exactement à quoi vous vous engagez, vous ne pouvez pas vous marier. La vie commune. Alors on va nous dire justement, dans la liberté, pour qu'elle soit bien informée, que l'intelligence soit bien informée, il faut à ce moment-là vivre un peu d'abord en concubinage. Ben non. Parce qu'on peut très bien, depuis des siècles, on sait très bien comment on vit ensemble et comment on a des enfants sans être marié avant. Enfin, sans vivre ensemble avant. Ce n'est pas une nécessité, le mariage à l'essai. D'ailleurs, le mariage à l'essai n'ouvre pas sur un mariage fidèle et complet. Et les personnes s'abîment à faire un essai, puis un deuxième essai, puis un troisième essai. Parce qu'il y va aussi de notre vie quotidienne. Ce don de la vie quotidienne, ce n'est pas évident de le prêter, de le reprendre, de le prêter, de le reprendre. La nature, c'est de le donner. Et donc, la liberté ne consiste pas à être parfaitement renseigné sur la vie commune, mais la liberté consiste à savoir qu'on va s'engager dans la vie commune et qu'elle va avoir ses exigences. Et nos parents, nos grands-parents vont nous dire les vertus nécessaires pour cette vie commune. Ceux qui sont sages, des concessions mutuelles, du fait aussi de ne pas être toujours l'un sur l'autre, parce que, voyez-vous, il y a des personnes qui, dans le mariage, ont, ou par la grande mission de l'éducation des enfants, ou par un travail personnel de nos jours possible pour la femme, on ne passe pas tout le temps. Il y a des personnes qui sont en télétravail et qui du coup vivent tout le temps ensemble. Pur télétravail, hein, c'est-à-dire, moi je connais comme ça des couples, donc ils sont tout le temps tous les deux à la maison. Eh bien ça demande une vertu plus particulière, plus fine. Vous avez des personnes qui ne se supportent pas à la retraite parce que pendant 20, 30 ans, 40 ans, ils n'ont pas été 24 heures sur 24 ensemble. Tout d'un coup, à la retraite, ils sont des heures ensemble. Et ça leur demande un plus grand amour, une plus grande connaissance et un plus grand amour. Il y a des choses qu'ils savaient et qu'ils savent mieux, qui sont de tels défauts, de telles qualités, et ils le vivent plus longtemps et plus intensément. Et comme de nos jours, on vit plus ou moins vieux, on verra avec le temps, on a peur de cette durée. Mais l'amour est hors de la durée. Et ainsi, voyez-vous, on aura beau vous dire théoriquement des choses, l'objet même de votre choix restera pour vous quelque chose de libre. Et c'est pour ça que, donc là, il y a certaines questions qui, comment dire, classiques, sur la maturité, sur la liberté. Alors, une chose à préciser, c'est que il n'y a pas seulement l'immaturité, il y a aussi les problèmes psychiatriques. Et donc, dans un mariage, si vous avez des problèmes psychologiques, névrotiques, psychiatriques, il faut le dire. Parce que rien n'est insurmontable. Et quand quelqu'un devient malade, névrotique ou psychotique, après le mariage, il n'y a pas la possibilité de dire il y a eu erreur. Parce que la maladie fait partie de ce qui est assumé dans l'amour. Par contre, si une personne vous a caché des séjours en hôpital psychiatrique et une schizophrénie ou une bipolarité, ou une paranoïa, mais comment dire, ça se voit, mais pas forcément. Et bien là, le mariage est nul. Donc, mais moi, je connais des couples dont l'un des deux a fait des séjours en hôpital psychiatrique. Alors on leur dit, est-ce que vous allez assumer des moments difficiles? Et bien oui. Et moi, je connais comme ça un cas, la personne est dépressive. Mais dépressive, elle peut, par exemple, ne pas dormir pendant 5 à 7 jours. Et alors, du coup, sachez que c'est mécanique, hein, quand vous ne dormez pas pendant 5 jours, vous délirez. Et donc là, je me suis retrouvé avec cette personne. Outre que j'ai fait de la psychiatrie à l'Institut de criminologie de Paris, j'ai fait de la psychiatrie en droit canonique pour les nullités de mariage. En tant que prêtre, on rencontre plein de personnes, des personnes les plus équilibrées aux personnes qui ont les plus grandes difficultés. Et alors, pour le coup, voyez-vous, c'était vraiment assez impressionnant. Il délirait complètement, il se levait, il s'asseyait, c'était hallucinant. Donc moi, comme j'ai une certaine expérience, j'étais pas impressionné. Mais voyez-vous, quand on pense qu'il est fiancé, waouh! Hein? Mais la fiancée en question, elle était là, elle l'a emmenée, elle s'est occupée d'elle, il y a les parents qui sont venus et tout ça, enfin. Elle l'aime. Donc, on va voir. Elle est avertie, hein. Elle est libre. Elle sera libre dans son consentement. Elle ne sera pas trompée. Chapeau. Enfin, voilà. Donc, mais ça, c'est dans les entretiens personnels, après cette session, que veut dire. Et moi, à un certain moment, voilà, une telle ou un tel me dit, oui, j'ai fait une grosse dépression, tout ça, mais je l'ai dit. Alors, parce que le problème, c'est comme de nos jours, on veut être en parfaite santé, et s'il y a le moindre anicroche, c'est la panique, voyez, et que la dépression, c'est la maladie du siècle, il faut pas exagérer non plus. C'est pas un empêchement au mariage d'avoir fait un burn-out, un surmenage ou une dépression. Et avec l'expérience, et je n'ai que 48 ans, et quand j'en aurai 60, quand j'en aurai 70, eh bien voilà, là en vous parlant, je pense à une personne qui a fait un magnifique burn-out. Il n'a pas été délirant, hein, mais il était en live complet. Il a été pendant 6 mois comment dire, en congé maladie, un magnifique burn-out. Et encore maintenant, si vous voulez, il a parfois une parole automatique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas l'arrêter. C'est pas moi. Hein. Et donc, c'est assez impressionnant. là, il prend un sujet et bam, c'est parti. Mais en général, c'est des mathématiques ou c'est des jeux comme ça. Hein. C'est pas une prédication ou un exposé. Sinon, ça voudrait dire que tous les professeurs sont des dingues. Tous ceux qui font 45 minutes de cours, 50 minutes. Donc, cette sincérité, je vous la demande. Liberté d'engagement et sincérité. Si je discerne la moindre simulation entre vous, je la dénoncerai. Ce qui fait que quand on a l'entretien individuel, normalement un prêtre sérieux doit... Enfin, je suis vicaire épiscopal au mariage, donc si je ne sais pas comment on prépare au mariage, il y a un problème. Et justement, parce que j'ai cette charge, on m'a donné une petite paroisse mignonne, comme Saint-Eugène. Mais du coup, vous avez une préparation au mariage très très précise, trop précise peut-être, bon, c'est comme ça. Et donc, on doit recevoir le couple et on doit recevoir la personne seule. Et là, lors de l'entretien seul, c'est une question d'honnêteté. Qu'est-ce que. Voilà. Alors, c'est couvert sous le sceau de secret total. Sauf à ce que vous révéliez quelque chose de très grave, à ce moment-là, je ne le dirai pas, mais j'arrêterai la préparation. Je dirai, excusez-moi, je ne me sens pas capable de continuer et de signer votre dossier. Parce que le dossier se termine ainsi. Je sous-signais, père Marc Gelfucci, après m'être assuré de l'exactitude des renseignements ci-dessus, atteste que je n'ai pas remarqué chez la fiancée ou chez le fiancé d'éléments apparemment contraires à la maturité et aux caractéristiques fondamentales du mariage. Liberté du consentement, unité, indissolubilité, responsabilité d'époux et de parents. Donc si je signe ça, c'est en conscience. Si je n'arrive pas à avoir la certitude morale de ça, eh bien, je ne signe pas. Et là, on doit se marier et tout, et trouver un autre prêtre. Voilà. Bon, alors si vous avez des choses graves à me dire, vous pouvez toujours prendre rendez-vous. Question à Psychologie Magazine, puisqu'on doit y passer. Liberté et don de soi. L'amour s'exprime dans la liberté et le don de soi. Cette liberté se réalise dans un choix de vie pour mieux se donner à l'autre.